This is over. The fadeaway.
Got it. Step back and kiss myself.
Oh my MVP gosh, it's time. Over.
Woo! Y'all gonna make me lose my mind. Up in here, up in here. Y'all gonna make me go all out. Up in here, up in here. Y'all gonna make me act a fool. Up in here, up in here. Y'all gonna make me lose my cool. Up in here.
Hello, bonjour à toutes et bonjour à tous. Comme chaque dimanche désormais, l'écho des parquets est de retour pour parler NBA avec vous pendant près d'une heure. Et aujourd'hui, j'aurais envie de commencer par un bon chakalaka. Mais bon, je pense que le concours de dunk d'hier soir qui m'a plutôt déçu n'est pas de circonstance. Donc on verra dessus tout à l'heure, mais je pense que ça n'a pas été à la hauteur des exigences. Donc voilà, pas de bon chakalaka aujourd'hui. Je vais plutôt à la place vous présenter l'équipe du jour, à commencer par Laurie du Bowling Crew, toujours là. Comment ça va Laurie?
Salut, bah ça va bien, merci.
On a aussi Guillaume qui est là, Basket Info, toujours, ça va?
Oui, ça va, toujours, et toi?
Super, bah moi comme d'hab, ça va. Et puis Nico, toujours là, présent, Basket Info également. Comment ça va Guillaume? Nico, pardon.
Ah non, ça va.
Alors, si vous êtes prêts, bon, je vais passer au sommaire. On va rapidement voir ce qu'on va évoquer aujourd'hui. On va parler du All-Star Game, les petits concours d'hier soir, donc plus ou moins de succès, on va dire. On va parler de Royce White aussi. Royce White, on vous en a parlé la semaine dernière, donc on va faire un petit bilan après sa première semaine en D-League. Donc déjà, c'est une bonne chose qui soit revenue, donc on va faire un petit point. On va aussi revenir sur les rumeurs de trade, les dernières rumeurs de trade, puisque la deadline, comme vous le savez, est dans 4 jours, donc le 21 février. Donc ça se précise pour tous ces joueurs qui vont aller et venir d'une franchise à une autre. Et puis, tout de suite, on va commencer par un gros format aujourd'hui sur les New York Knicks. On verra si la franchise si chère à Spike Lee est vraiment taillée pour les playoffs ou si ça peut viser un titre tout de suite. Donc mes amis, si vous êtes prêts, on est parti. Jingle.
Rose crosses over the fadeaway.
Got it. Step back and kiss myself.
Oh my gosh,
MVP time.
Voilà, on est de retour tout de suite donc pour vous parler aujourd'hui des New York Knicks. Donc la franchise de New York, elle est en ce moment bien, elle se porte bien, mais on voudrait savoir si la franchise peut avoir des ambitions de play-off, des ambitions de finale, des ambitions de titre. On veut tout savoir, donc on va commencer par Laurie. Qu'est-ce que tu peux nous dire, Laurie, sur les New York Knicks?
Bah, les New York Knicks, c'est vrai que cette année, ils font quand même une sacrée saison. Moi, je les attendais pas. Peut-être pas aussi fort que ça, je dois bien l'avouer. Là, ils sont deuxièmes avec 32 victoires et 18 défaites. Donc juste derrière Miami et avant Indiana, Brooklyn et Co. Donc vraiment bien. Après l'effectif, je trouve qu'il est pas mal équilibré avec l'ajout de Jason Kidd notamment. Carmelo Anthony qui, pour moi, confirme cette année, enfin, il fait une très bonne saison. Même si je trouve que, bon, je suis pas spécialement fan du joueur, je vais pas le cacher. Mais c'est vrai qu'après, à chaque fois qu'il revient de Team USA, j'ai remarqué qu'il fait toujours une bonne année. Donc, je suppose que ça aide pour lui. Donc voilà, vraiment une bonne saison et pourquoi pas une très bonne place en PO.
À savoir que donc c'est une des meilleures saisons des Knicks. Donc bon, on va dire déjà c'est pas trop dur étant donné l'état des dernières saisons, mais c'est une des meilleures saisons depuis l'ère Patrick Ewing. Et on a envie de dire cette année il y a une espèce d'alchimie un peu qui marche dans le groupe. Et comme l'a déclaré Tyson Chandler dernièrement. Et cette année, il sent que c'est l'année ou jamais pour faire quelque chose. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Nico?
Ouais, c'est vrai qu'il y a une espèce d'alchimie parce que finalement, l'effectif est pas si bien construit que ça, hein. C'est un peu n'importe quoi, on pourrait dire, avec des joueurs.
C'est vrai, parce qu'en début de saison, je te coupe deux secondes, c'est vrai qu'en début de saison, moi je disais que c'était un peu des pièces rapportées d'ici et là pour essayer de construire un semblant d'équipe. Et puis finalement, on voit que ça marche pas si mal. Alors vas-y, je te laisse continuer.
Ouais, bah finalement, la sauce prend. Alors elle a pris d'abord avec l'absence de Stoudemire. C'est peut-être une des raisons pour laquelle la sauce a pris, avec un seul leader, Carmelo Anthony, et tous les joueurs autour qui plus ou moins jouent pour lui ou font les petites choses qui doivent être faites autour d'un joueur comme ça. Ça a bien marché. Ils se sont mis à défendre aussi, ce qui était un peu inédit, hein. Même pour qu'un joueur comme Carmelo.
Complètement inédit même.
On l'avait vu un peu quand même en fin de saison dernière.
Oui, avec Mike Woodson qui a commencé à amener quelque chose de...
Oui, puis peut-être Carmelo Anthony a pas loin de 30 ans et commence à se dire que ce serait bien d'aller un peu plus loin en playoff que ce qu'il a fait jusque-là. Vu son niveau, c'est normal.
À savoir,
en plus cet été, il était avec Team USA, donc d'être à côté de Kobe Bryant, LeBron James et compagnie, ça aide aussi peut-être à mettre un peu plus de réflexion par rapport à la défense.
C'était pas sa première médaille d'or olympique avec Team USA quand même.
Oui, mais maintenant avec la maturité,
avec la maturité de chacun, effectivement, c'est possible qu'il y ait eu quelque chose qui se passe. Guillaume, tu veux dire quelque chose?
Ouais, non, moi c'était, bon, bien sûr, on parle de, il a côtoyé Kobe, LeBron et au JO cet été. Moi, je pense aussi qu'il a été touché dans son orgueil quand il a surtout côtoyé Kevin Durant et Russell Westbrook, qui sont quand même largement plus jeunes et qui ont accédé au final, quoi, avant lui. Et je pense que ça l'a aussi fait réfléchir dans un sens où il faut qu'il diversifie un peu son jeu. On l'a vu s'impliquer beaucoup plus en défense. C'était les Knicks du début de saison, c'était du presque parfait. Là, c'est un peu moins bien, je trouve. Melo retombe dans du arrosage un peu. Beaucoup de shoots qui rentrent pas. Je sais pas, à voir, mais...
Ouais. Est-ce que là on est quand même sur une moins bonne dynamique. Alors on a eu un petit coup de mou aussi pendant l'absence de Felton qui a été blessé. Après il y a eu le retour de Stoudemire. J'ai envie de dire bien.
Très réussi.
Mais bien pour le retour, sur le plan personnel. Mais sur le plan des victoires défaites, je crois que ça se valait un petit peu quand même.
Non, il apporte vraiment quelque chose à Stoudemire en sortie de banc. On pensait, quand il était blessé, tout le monde disait soit il va revenir, il va casser la dynamique, soit on l'imaginait déjà au niveau de Hakeem Olajuwon parce qu'il avait bossé avec lui ses moves au poste bas. Et il s'avère que c'est pas encore Hakeem Olajuwon, mais il soulage beaucoup, je sais pas ce qu'en pensent Nico et Laurie, il soulage beaucoup au scoring, un des meilleurs sixième hommes de la ligue ces dernières semaines. C'est vraiment une belle addition. Ouais.
On est là sur un sixième homme de luxe, hein, je sais pas ce que vous en pensez, ouais, mais là on est sur un sixième homme de luxe à 100 millions de dollars le sixième homme, quand même.
Ouais. Ça fait cher le sixième homme, c'est vrai.
Non, ça fait cher, mais c'est vraiment un gros plus, je trouve.
Alors, et pas de retour prévu dans le 5, là, prochainement?
Je pense pas. Je pense que c'est bien comme ça. Il a souvent déclaré que ce rôle lui convenait.
Pour l'instant, oui. Ouais, c'est Stoudemire, hein. Ça va bien un mois, le mois d'après, il se dit quand même que finalement il aimerait bien avoir plus de ballons. Hein.
Non, mais le problème c'est qu'avec Anthony, ils n'arrivent pas à cohabiter sur le terrain.
Je trouve que si dernièrement, parce que Stoudemire, je le vois plus prendre ses shoots à mi-distance qu'il aimait beaucoup. Il bosse beaucoup près du panier et finalement ça marche pas mal avec Anthony qui.
Oui, mais parce qu'il est sixième homme justement.
Après ça veut rien dire, je trouve, sixième homme ou pas, sorti du banc ou titulaire, tant qu'il joue 30 minutes par match, ça va quoi.
Alors justement, on approche là de la deadline le 21 février. Ouais. Est-ce qu'on peut faire un petite subjection sur Amar'e Stoudemire ou est-ce que c'est bien comme ça et...
Non, là je pense qu'ils vont essayer de rien toucher de parce que comme on dit, c'est une équipe atypique avec un équilibre qu'ils ont trouvé, mais on a du mal à expliquer cet équilibre. Alors je pense pas qu'ils vont s'amuser à tout toucher.
Est-ce qu'on n'a pas l'impression que c'est en termes d'image, est-ce que c'est pas un équilibre un peu bancal? Je pense à la planche de bois sur le rondin. Est-ce qu'on n'a pas l'impression que ça peut basculer d'un côté ou de l'autre à tout moment en fait?
Ouais, c'est un équilibre bancal pour bonnes raisons que c'est une équipe qui s'appuie beaucoup sur son shoot, notamment extérieur, et dans un match où ils sont pas dedans au niveau du shoot, ça va galérer, ça va pas marcher quoi.
Laurie, vas-y, tu voulais dire ?
Non, moi je pense qu'ils sont bancals, mais en même temps, ça peut être bancal, comme tu dis, ça peut pencher du côté positif ou négatif.
Oui, aussi.
Donc autant tester jusqu'à la fin de saison, voir si ce bancal-là va plus vers le positif et ne rien toucher pour le moment, puisque ça fonctionne quand même malgré tout. Même s'il y a des jours sans, ça fonctionne. Donc autant aller jusqu'au bout, voir ce que ça va donner.
D'accord. Donc pour vous, l'équilibre bancal peut quand même se solidifier à un moment ou à un autre.
Oui, on l'a vu. Ils ont tapé Miami sans Carmelo Anthony. Donc et c'était un jour où ça pleuvait les trois points quoi. Donc ça peut pencher d'un côté comme de l'autre, comme tu dis.
C'est pas risqué ça de se reposer quand même vachement là-dessus.
Qui tout de suite.
Si, mais ils n'ont pas vraiment le choix, je pense. Hein.
Ouais, c'est ça.
Bah oui, c'est ça. Ils n'ont pas le choix. Hein.
Le roster que... peut pas trop le toucher parce qu'ils ont qu'une flexibilité. Là ils gagnent, ils vont pas se plaindre. Hein. Un jour ça pètera peut-être, mais pour l'instant pourquoi s'en soucier.
Parce qu'il faut dire qu'il y a des moments quand même, on laisse les clés à J.R. Smith qui est pas quand même le plus bon. Alors je mets à coup de pas parce que cette année il est quand même assez énorme, mais il y a quand même bien des moments où il passe complètement au travers. J.R. Smith c'est pas un modèle de régularité quand même.
Non, mais c'est l'équipe est construite n'importe comment. J.R. Smith est jamais censé être le deuxième meilleur marqueur d'une équipe.
Et pourtant,
là c'est le cas, mais c'est vraiment qu'il y a, comme on dit, une espèce d'alchimie étrange qui s'est formée et qui pour l'instant fonctionne. Donc on va pas, même si c'est J.R. Smith, même si leur poste 2 c'est Jason Kidd à pas loin de 40 ans, même si Steve Novak joue 20 minutes par match, ce qui dans toute autre équipe est impensable.
Normalement, on devrait plutôt le voir comme un Matt Bonner aux Spurs normalement.
Oui, c'est vrai. Ouais.
Normalement, c'est ça. Le Red Mamba, comme ils l'ont appelé hier soir, lors
Ouais, c'était ridicule ça par contre.
Ouais, le Red Mamba, au secours quoi.
Mais donc cet équilibre est bancal. Mais alors en playoff justement, avec des jours où la défense va être vraiment vraiment intense, est-ce que ça va donner quelque chose quand même?
Ça va être la question, je pense, hein, parce que cette équipe n'a pas beaucoup de vécu non plus. Là, ils sont sur une bonne dynamique, ça, ils surfent dessus. Les playoffs, c'est une toute autre histoire. Après, bon, c'est la conférence Est, il n'y a pas grand chose en face pour l'instant,
oui,
jusqu'à Miami. Donc, à la rigueur, je sais même pas si on peut se dire que vraiment les playoffs seront une vraie mise à l'épreuve. Ça va un peu changer.
Alors, par exemple, justement, on est actuellement sur un Boston-New York au premier tour.
Je pense pas qu'on ait quand même Boston-New York. Je pense que Boston va continuer à monter. Vu que Brooklyn va pas bien, ça peut switcher à tout moment.
Mais alors, ouais. Mais est-ce que contre une équipe, ce serait pas la désillusion quand même si Boston venait à l'emporter au premier tour contre New York?
Ça dépend pour qui la désillusion.
Non, mais pour, oui, en tant que toi fan des Celtics, ce serait pas la désillusion, mais pour New York.
Oui, pour New York, ça serait une vraie désillusion. Mais le coup du pas de chance, ça serait vraiment qu'il tombe sur Boston, qui même sans Rajon Rondo est quand même une équipe capable de faire des gros coups dans cette conférence Est. Mais s'ils tombent contre Chicago, Atlanta, Milwaukee ou Brooklyn, je pense que il y a moins.
Même Chicago, il y aura peut-être le retour de D-Rose en plus.
Ouais, je suis pas convaincu.
Non, si D-Rose il reviendra pas, mais non, mais s'ils tombent contre Atlanta ou Milwaukee, ouais, ça passe.
C'est cash, hein, c'est 4-0 ouais. Et tour suivant. Hein.
Ouais, après, c'est ça, Atlanta.
Je pense que New York est quand même une équipe un peu à risque, dans le sens où, comme on disait, ils basent beaucoup leur réussite sur le shoot à 3 points et la forme de Carmelo Anthony. Si une équipe adverse prend le temps de les étudier, de bien trouver des solutions pour contrer Carmelo Anthony et le tir à 3 points, t'es pas dit que New York soit capable de faire grand chose en face.
Il y a une équipe qui avait été en finale en 2009, qui s'appelait les Orlando Magic, qui était construite sur un peu le principe du shoot à 3 points et du je récupère au panier avec Dwight Howard.
Ouais.
Est-ce que les Knicks se voient pas un peu dans ce rôle-là avec Tyson Chandler?
Non, quand même pas puisque Carmelo Anthony est quand même un jeu plus varié offensivement que du shoot à 3 points, donc je pense pas. Et puis la différence entre Tyson Chandler et Dwight Howard, c'est que Tyson Chandler, il prend les rebonds offensifs. Dwight Howard, il prend les rebonds offensifs et il marque le panier derrière.
Oui, puis ouais. Il a tiré beaucoup plus de défenses que Tyson Chandler. Dwight Howard permettait d'avoir des tirs ouverts à 3 points. Chandler, beaucoup moins.
Oui, Chandler est moins monstrueux offensivement que l'était Dwight Howard à l'époque. Je dis bien à l'époque, Laurie, tu m'en excuseras. mais donc voilà. Et si on fait un petit point sur la défense là, de New York, donc on sait que Mike Woodson a ramené quelque chose là-bas. On sait que Tyson Chandler a été Defensive Player of the Year l'année dernière. Est-ce que la défense commence à être au point? Carmelo s'implique, commence à avoir l'implication d'un peu tout le monde. Est-ce que on sera au point en phase de play-off ou?
Moi, je pense quand même que la défense de New York, c'est quand même pas leur fort, donc ils vont devoir quand même être au point pour les play-offs s'ils veulent aller loin sans la défense. Bah,
c'est-à-dire que c'est une valeur sûre la défense quand même. Ils sont quand même assez performants.
Le jour où tu es mal en attaque, tu peux te reposer sur ta défense comme Boston l'a fait de nombreuses années.
Je pense pas. Je pense que c'est une valeur sûre leur défense, mais contre une grosse équipe, ça peut. Enfin, si tu vises le titre, je pense pas que c'est sur ta défense que tu vas devoir jouer. C'est une bonne défense, c'est 8e meilleure défense de la ligue, je crois. Donc c'est pas mal. Mais si tu veux aller jusqu'au titre, c'est sur l'attaque qu'il va falloir tout mettre, quoi.
Moi, ce qui me fait peur pour les playoffs, c'est si ça s'enraye un peu, s'ils disent que s'enraye un peu, c'est que Carmelo commence à arroser comme il sait faire. Bah, et
comme il le fait beaucoup dernièrement, je trouve.
Bah, c'est ça, moi, qui me fait peur, c'est Carmelo. Je suis pas sûre qu'il ait toujours l'intelligence à ce moment-là de dire, oula, on se calme, on pose le jeu, si c'est pour qu'il arrose encore.
Alors, après, c'est pour ça aussi, vous allez dire ce que vous en pensez, qu'ils ont apporté beaucoup de vétérans à cette équipe. Le souci, c'est qu'ils ont été blessés presque la totalité de la saison pour le moment. Donc, tu parlais d'équilibre, Antoine. Ça aussi, ça...
Mais alors, apporter des vétérans, juste pour dire, dans le vestiaire, on a des mecs de 40 ans, ça, c'est pas ça le principe.
Je pense pas, Antoine. Parce que...
Non, mais moi, je dis ça. Ah, je me mets plutôt dans le rôle de... Je dis ce que je pense. Là.
D'accord.
Non, mais c'est vrai que Jason Kidd est peut-être la personne qui peut mettre une claque derrière la tête à Carmelo Anthony quand ça commence à devenir n'importe quoi.
Est-ce que ça serait pas le seul, justement, à pouvoir le faire à New York?
Ah, il y a Rashid Wallace, quand même.
Out, exit Rashid Wallace. Est-ce que ça serait pas le
faire du banc, ça, hein. Tu peux être assis sur le banc et mettre une claque à ton joueur, hein. C'est pas un problème, tu peux être blessé pour faire ça. Hein.
Oui.
Non, ouais, enfin, pas qu'il est plus limité quand même.
Mais c'est bizarre, je vois moins Rashid Wallace aller engueuler à Carmelo Anthony que Jason Kidd.
Ah bon. Oui, non, c'est vrai. Non, mais Jason Kidd, il y a vraiment, on espère un peu cette impact de sa part, notamment en playoff. Là, peut-être qu'il a pas autant cette présence-là, enfin, il a un peu, mais ce sera pas la même histoire en playoff. Enfin, je pense qu'il risque d'essayer de prendre un peu plus les rênes du leadership de l'équipe. Du moins, c'est ce qu'on attendra de lui.
Mais ce qui est merveilleux, c'est que là, on attend de Jason Kidd plutôt qu'il remette les joueurs à leur place, plutôt qu'il fasse des matchs sensationnels. C'est ça qui est formidable.
Bah, parce qu'il faut plus les faire, les matchs sensationnels.
Non, mais c'est bien, c'est une bonne chose. Je ne critique pas, mais c'est quand même assez marrant que maintenant, qu'on attende d'un joueur, et c'est quand même la seule équipe, je pense, on va attendre d'un joueur qui soit là pour remettre les joueurs à leur place, plutôt que faire le taf sur le terrain, entre guillemets.
Enfin, moi, je trouve qu'il fait une très bonne saison par rapport à ce qu'il peut apporter, encore une fois.
Bien évidemment. Ah ouais, d'accord avec toi. Non, je suis complètement d'accord avec toi. Mm. Je dis juste que...
Oui, non, j'ai compris, Antoine.
Voilà. Dans un premier temps, on veut que ce gars-là, il soit là pour remettre les gens à leur place. On se dit, putain, il faut qu'il le fasse.
Ok, c'est bon.
Voilà ce que je veux dire. Ne vous énervez pas.
Je suis d'accord.
C'est un meneur de jeu, hein, mettre en place les choses. C'est aussi son boulot depuis qu'il est dans la Ligue. Hein.
Mm. Voilà, donc l'expérience. Est-ce que justement le fait que Jason Kidd, Tyson Chandler, les champions avec les Mavericks en 2011, est-ce que ça c'est pas un gros plus pour New York?
Peut-être pas un gros plus, mais c'est un plus.
C'est un plus, oui, c'est un plus. Ça va quand même permettre d'amener une expérience de ces moments-là, de ces moments chauds, de la pression. Donc c'est un plus. Après un gros plus, je sais pas. Mais...
Après plus que Jason Kidd et Tyson Chandler, une des clés de New York, c'est aussi Raymond Felton et Tyson Chandler et la façon dont ils jouent tous les deux ensemble.
Oui, puis le fait de jouer avec un vrai meneur, ça leur change de l'année dernière. Je pense que c'est une des choses qui manquait à Carmelo Anthony, au minimum. Un joueur qui mette un peu en place, qui mette un peu de vitesse dans les défenses, qui permet de trouver un petit peu des tirs. Ça, je pense que c'est pas à négliger.
Mm-hmm. Oui, parce que l'année dernière, qui on avait on a eu Jeremy Lin qui
c'était Baron Davis.
Il y a eu l'éclosion de Jeremy Lin et après on a eu Baron Davis, c'est ça?
Ouais.
Et il y avait rien d'autre, en fait.
Ben non. Parfois, il y avait même Iman Shumpert en meneur.
Oulala. Avez-vous des nouvelles de Baron Davis?
Oui, ben il est toujours avec les Knicks, hein.
Il est toujours avec eux, au contrat,
mais il voyage avec eux, il est avec le groupe, et je pense que
Je crois, non?
Comment?
Il fait scout, non?
Oui. Oui, il me semble qu'il faisait scout, il me semble que j'avais lu, oui, qu'il faisait un peu un travail officieux comme ça pour les Knicks.
D'accord, donc Nico, hein, si tu l'as au téléphone, pareil comme d'hab.
On va mettre des matchs ensemble, lui et moi.
Et pour finir, on a eu le retour de Iman Shumpert, donc qui était bon. On va le dire rapidement, cité dans des trades ça et là, mais bon, on n'y croit pas. On a eu son retour là à Londres. Bon, alors premier point là après 3 semaines de jeu.
Je trouve, je sais pas ce qu'en vont penser les autres, mais je trouve qu'il fait pas une si grosse différence que ça dans le sens où il y avait déjà Ronnie Brewer qui faisait le même taf. Alors bien sûr, Shumpert shoot un peu mieux, score un peu mieux, défend peut-être un peu mieux puisqu'il peut défendre mieux sur les meneurs, mais il fait pas une grosse différence quoi.
Non, mais avoir deux joueurs.
T'as l'impression qu'il monte.
Attendez pas tous en même temps, Laurie, vas-y.
Non, moi je trouve qu'il faut lui laisser le temps de revenir aussi, de retrouver le rythme. Moi je pensais qu'il ferait pire que ça. Hein. Je pensais pas qu'il serait. Je trouve que déjà il apporte une dynamique, il est pas mal. Ronnie Brewer, oui, ils font un peu le même genre, mais. Quand même, Brewer est beaucoup moins dynamique. Enfin, moi, je trouve qu'il apporte quand même beaucoup, beaucoup moins Brewer. Hein. Je trouve que Shumpert est quand même un plus non négligeable et qui va monter de plus en plus en puissance. Donc, ce sera un atout, à mon avis, pour les PO.
Qu'est-ce que tu voulais dire, Nico?
À mon avis, Shumpert a effectivement un plus gros impact athlétique et en termes d'énergie. Après, en attaque, c'est quand même catastrophique. On part Brewer qui, au minimum, est discret et puis s'intègre assez bien dans le jeu.
Oui.
Mais je pense que l'intérêt vraiment pour New York, c'est ces deux joueurs-là, ils ont deux gros défenseurs interchangeables et peuvent mettre une pression assez très intéressante sur les ailes, sur les postes 2-3 et même poste 1. Avoir deux joueurs comme ça, je pense, ça peut être un vrai atout.
Après, Ronnie Brewer est sorti de la rotation depuis qu'Iman Shumpert est revenu. Hein, donc New York n'utilise pas forcément ses atouts.
Et toi, alors Nico, est-ce que tu penses que c'est un problème pour les Knicks d'avoir deux joueurs comme ça, gros défenseurs?
Non, pas vraiment. Ils peuvent tous les deux être sur les deux postes arrière et même sur le poste 1. Du coup, ça apporte une vraie densité défensive. Et d'ailleurs, justement, on se posait la question pour les playoffs. Je serais pas étonné de trouver un grand intérêt à avoir ces deux joueurs-là parfois simultanément sur le terrain dans les jeux.
Et c'est reparti, on revient tout de suite avec les sujets, donc j'ai envie de dire bouillant, parce que c'est tout juste hier que cette nuit s'est passée. Sur le All-Star Game, peut-être enfin trouvé un argument. Entre temps, on a Laurie qui nous a lâché. Bon, alors, si vous avez l'excuse, c'est pour aller voir un match. Je vais ajouter là-dessus, je vous écoute. Si je ne m'abuse à Paris Bercy,
simplement, trop fort. Ne nous regarde pas.
Donc voilà, on revient à 3, donc pour finir ce sujet. Sur le All-Star Game, donc hier soir, ok, bon, très bien, on va clôturer le sujet là-dessus, challenge, au concours du All-Star Game, c'est parti. Alors moi, personnellement, j'avoue que je suis un peu ennuyé de ça, comme quelques années, mais est-ce que vous avez vu et trouvé dans ces concours
Ouais. Au niveau du concours de dingue, il y avait en tout cas plus de promesses que les années précédentes. Je me souviens, il y a un ou deux ans, il y avait Brandon Jennings qui était sélectionné. Ça annonçait quand même la couleur. Cette année, on avait six bons dunkers. Gerald Green, Kenneth Farid, Eric Bledsoe, je me souviens plus tous. Et au final, ouais, il y a eu du spectacle, mais pas...
Alors justement, on va pouvoir rebondir tout de suite sur ce que je viens d'entendre là. Tu viens de me dire quelque chose qui m'a fait tilt. Parlons-en de Kenneth Farid. Alors, Kenneth Farid, je sais pas si donc bon, on n'a pas eu besoin de surpasser les dunks en boucle,
ouais.
Puisque Kenneth Farid, ça a été un peu vite fait bien fait, hop, on passe à la trappe. Je sais pas, qu'est-ce que vous avez pensé de ça? C'était quand même celui qu'on a annoncé comme favori.
Pas forcément le favori, mais
non, pas forcément le favori, mais c'était un des favoris.
Bah c'est le problème, c'est que Kenneth Farid, c'est un dunker qu'on appelle un dunker de match, quoi. Il va faire des claquettes en plein match. Mais au niveau créativité et jump, on n'était pas sûr qu'il avait quelque chose, ce qu'il fallait pour remporter le concours, et ça s'est confirmé en fait.
Nico, tu as vu ça?
Non, pas plus que ça. Non, pour moi, le vrai favori, à la fois favori et déception, c'était James White, parce qu'en fait, ça fait des années qu'on parle que de lui pour le concours de dingue, qui les ramasse tous en Europe, en D-League, un peu dans tous les sens, et qui parfois on en faisait même presque l'égal des dunkers professionnels qui pullulent sur YouTube. Et là, pour une fois, il a sa chance en NBA, donc le vrai concours unique. Et ben, il n'y parvient pas. Il plante, il cale juste le jour où il faut pas. Alors, est-ce que ce moment est venu trop tard pour lui? Est-ce qu'il a trop de pression?
Je pense que c'est surtout le fait d'avoir eu trop de pression.
Venant de lui, je vous avouerai que quand même, quand le premier dunk qu'il a fait quand il est arrivé avec les hôtesses, il faut avouer qu'il y avait quand même, il y a eu un bon dunk là quand même.
Ouais,
faut l'avouer. Ouais. Après bon, on s'est un petit peu ramolli dans le concept.
Le problème de lui et Gerald Green, c'est qu'ils ont essayé jusqu'à la fin du chrono de passer leur dunk, et au final il n'est pas passé, et du coup ils n'ont pas été notés. Et Terrence Ross, il a juste eu à passer deux petites claquettes pour aller en finale.
C'est d'ailleurs embêtant de voir que Gerald Green, de qui on attendait aussi beaucoup. Qui soit mangé comme ça sur un truc, parce qu'il a quand même tenté un peu le diable en faisant
clairement passer. Trop gros.
Mais d'ailleurs, quand on voit ça, est-ce qu'on se dit qu'il a répété avant beaucoup, parce que il a pas dû le passer des millions de fois pour être si juste comme ça en plein concours?
Ouais, je pense que c'est quand même des joueurs NBA avant tout, c'est pas des dunkers professionnels, donc ils doivent quand même s'entraîner, mais ils arrivent pas au concours avec des certitudes. Enfin, ils ont quelques certitudes, mais pas forcément, y a une chance qui loupe, quoi, et ça s'est vu.
Ouais, et puis ça se trouve, c'est juste Terrence Ross qui a trafiqué la taille du panneau juste avant qu'il fasse son...
Aussi,
son,
oui,
son,
oui.
Son, donc,
Non, d'ailleurs, Terrence Ross, pas mal. Hein.
Oui, je pense qu'un des trucs qui a été flagrant dans ce concours, c'est que, bon, ça fait des années que le concours de dunk devient un peu mou, parce que c'est toujours les mêmes choses qu'on voit, et on est un peu blasé par tous ces dunks qui sont très bien, mais qu'on a déjà vu des dizaines de fois, tant en temps, parce que... c'est dingue qu'on avait les années d'avant, mais aussi parce qu'on en avait beaucoup sur YouTube avec les dunkers professionnels. Du coup, on est plus surpris, on est plus, et eux-mêmes de leur côté ont plus vraiment d'idées. Du coup, là, c'était flagrant. Ce sont les dunks efficaces, connus mais efficaces et qui ont gagné. Et c'est ceux qui ont tenté des trucs inédits et très très difficiles qui ont perdu, mais parce qu'ils ont perdu parce qu'ils ont pas pu mettre les dunks. Je veux dire, on est à un niveau maintenant où on n'a plus d'idées pour faire autre chose, et les trucs les plus durs les nouveaux trucs qui viennent, ils sont juste trop durs pour être vraiment faits.
J'ai envie de dire, est-ce que les dernières idées, on les a pas eues, est-ce que les dernières idées sont pas mortes avec Vince Carter en 2000 ou...
Non, je pense qu'elles sont mortes avec les dunkers professionnels, moi.
Oui, et l'émergence de YouTube où tu peux voir n'importe quel dunk de folie, Et après, tu te retrouves, comme il disait Nico, All-Star Game, t'es blasé, quoi. C'est un super dunk que tu vois par le mec qui joue en NBA, mais c'est pas son métier, donc c'est forcément...
Vous avez été blasé par le dunk hier soir, par le concours de dunk?
Non. Largement, oui.
Enfin, moi, je m'attendais pas non plus à quelque chose d'extraordinaire, donc j'ai pas été déçu de ce point de vue-là, quoi.
Oui, mais voilà, c'est ça. On s'attend même plus à un truc d'en prendre plein les yeux, comme à l'époque, quoi.
Alors que Michael Jordan contre Dominique Wilkins, c'était magique, quoi.
D'ailleurs, on en reparlera dans la future émission Vintage,
lâche pas les cartouches comme ça.
Non, mais pour revenir là-dessus, je pense qu'il faut vraiment avouer que depuis quelques années, la créativité est vraiment en berne et que plus ça va, plus on va offrir des concours comme ça à des gens comme Blake Griffin qui, sous couvert d'avoir eu de la créativité en sautant par-dessus une voiture, en mettent plein les yeux aux gens. Donc, je pense qu'il faut s'attendre à ça dans les années à venir, puisque hier soir, ce qu'on nous annonçait, c'était le retour aux valeurs, le retour au dunk, voilà, puissant sans accessoires, le vrai dunk à l'ancienne.
Mais ça a été le cas. Il n'y a pas eu d'accessoires minables, je veux dire. Une voiture ou une moto ou un doudou qu'on a vu l'année précédente.
C'est pour ça justement que je disais, sous couvert de ça, on s'attend plus à quelque chose de mirobolant parce que il y a plus d'accessoires, il y a plus de, enfin le show au final, les gens veulent voir quelque chose.
Après le seul moyen, enfin il y a deux options pour relancer ce concours de dunk. Bah, ça peut pas continuer comme ça si vraiment. Soit c'est inviter des stars, mais vraiment des stars, genre D-Wade, LeBron James, Kevin Durant. Là t'aurais vraiment un engouement autour de ça. Et même si les dunks se retrouvent un peu moyens, il y aurait quand même l'engouement autour parce que c'est LeBron James, quoi, tu vois.
Mais est-ce que si on faisait venir des joueurs comme ça, est-ce qu'on n'aurait pas vraiment des préparateurs, des scénaristes, des...
Oui, du coup. Oui, vas-y.
Mode catch.
Non, parce que je pense que ça serait un gros plan monté avant quand même.
Ou l'autre solution, c'est d'inviter des dunkers professionnels. Quoi.
Ou alors, on va peut-être, c'est ce dont on parlait à un moment donné, c'est la suppression du concours, remplacé par une épreuve. Ça, je le sens gros comme une maison. Hein.
Et qu'est-ce que vous voulez mettre comme épreuve à la place du concours de dunk?
Ah, un joli petit 1 contre 1.
Ah oui.
Ou 3 contre 3. Ça serait de la tronche, hein.
Du cassage de suie dans tous les sens.
Mm. Ah ouais.
Avec des micros sur les joueurs, comme ça tu les entends
pour le trash talking.
Ouais ouais. Non mais ça se fait beaucoup dans par exemple en tennis ou quoi, ça se fait. Ça serait marrant. Hein.
Ah, d'accord. Je note ça, j'envoie tout ça à David Stern cet après-midi.
Ah, bouge pas, je l'appelle.
Tu l'appelles, d'accord, très bien. Donc,
allô,
voilà, on va lui soumettre l'idée. Et je pense que oui, parce que ça ne peut plus continuer comme ça, effectivement.
Oui, je pense vraiment que ça relancerait le All-Star Game parce qu'il y aurait une vraie compétition. Je veux dire, imaginez Kobe Bryant contre LeBron James. Bon, le match de All-Star Game, on regarde voilà. que ce duo.
Surtout que les deux, à chaque fois, c'est moi le meilleur joueur d'un contre un. Moi, je m'en.
Mais vous savez que vous n'aurez jamais le droit à ce genre de choses puisque aucun des deux joueurs ne sera assez fou pour mettre son image comme ça en jeu. LeBron James ne voudra jamais se faire crosser par Bryant en 1 contre 1 devant des millions de téléspectateurs.
Je suis pas sûr, tu vois.
Et Bryant ne voudra pas se faire crosser par. Alors si LeBron James veut bien, Bryant lui ne voudra pas, ça c'est sûr.
Pourquoi pas, peut-être pas ces deux-là, mais peut-être Kyrie Irving ou tu vois des jeunes comme ça qui maîtrisent le ballon, quoi.
Oui, parce que les superstars de la ligue, je pense que ne seront pas aussi folles pour mettre leurs images comme ça en pâture.
C'est vrai.
Oui, mais le buzz montera tellement, il y aura quand même une pression des spectateurs, parce que effectivement, il y a toujours des articles. Est-ce que machin est meilleur qu'un tel en 1 contre 1? Est-ce que Carmelo Anthony est meilleur que LeBron James en 1 contre 1? Tout ça.
Et d'ailleurs, on aurait pu le faire hier soir, hein. Et les 50 ans de Michael Jordan, on aurait pu inviter Jordan à faire, d'ailleurs, ce qu'on a vu cette semaine, Jordan contre Kid Gilchrist, qui lui a mis la misère, donc.
C'est Jordan qui a mis la misère à Kid Gilchrist.
Oui, c'est ce que je dis.
Ah ouais, faut
moi, je dis rien parce que moi aussi j'ai perdu contre Michael Jordan à 1 contre 1, donc je dis rien.
Ah, tu as perdu?
Oui,
ouais,
oui,
mais c'était une soirée où on était fatigué, Nico.
On avait dit non. Lui, c'était préparé, moi, je m'étais pas entraîné, moi.
Ouais,
non, mais sérieusement, il faut vraiment trouver quelque chose pour relancer cette soirée du samedi soir parce que bon, t'as le All-Star Dunk.
Pour le reste, le concours à 3 points, par exemple.
Ah, surprise!
Surprise quand même, Kyrie Irving, victoire de Kyrie.
Vraiment, ouais, c'est super joueur, mais de là à ce qui balance tous les spécialistes du tir à 3 points comme ça, je sais pas vous, mais je trouve que c'est assez représentatif du joueur qu'il est en train de devenir, quoi.
Là, il est en train de prendre une dimension qui est quand même assez énorme. On entend parler de lui en ce moment beaucoup pour ses performances absolument inouïes de quatrième carton, de trucs comme ça. Et à chaque réunion de joueurs NBA comme ça, All-Star, un truc comme ça, il fait toujours parler de lui.
On a l'impression que quand il est question de compétition et de gagner, bah, c'est lui qui est présent, qui rafle la mise, quoi. Je veux dire, c'est un peu la définition du franchise player, ça, non?
Bah, je pense que c'est même la définition du franchise player.
Et maintenant, il faut qu'il arrive à avoir les bons joueurs à côté de lui à Cleveland, quoi.
Voilà. Après, on va nous dire, oui, mais Kyrie Irving, voilà, il porte pas l'équipe, machin, il est, on rappelle juste quand même comme ça que à Cleveland on est d'accord que on joue avec Alonzo Guy, on joue avec Tristan Thompson, on joue avec voilà, donc faut pas non plus pousser mais dans les
Waiters, ce qui fait quand il fait 30% de réussite, c'est un bon soir au shoot.
Non mais c'est ça parce que j'ai entendu pas mal de trucs. Ouais, mais LeBron James, il arrive à porter l'équipe, machin, mais attendez Kyrie Irving,
il a pas fait les playoffs avant 3 ans.
Non mais voilà, Kyrie Irving, il est quand même pas entouré de bêtes de compétition.
Ouais, et puis LeBron James, il avait du Carlos Boozer autour de lui, hein. Il a pas eu André Miller à un moment donné.
Alors là, tu me poses une colle.
Si, il me semble qu'il y avait André Miller à un moment. Ouais. Non, il y a eu des bons joueurs. Carlos Boozer, ouais, avant de partir au Jazz, était un très bon rookie pour Cleveland.
Bon après, faut pas trop comparer non plus, mais faut pas s'étonner si Cleveland y perd de Kyrie Irving dans pas longtemps, quoi. Ils vont pleurer comme ils ont pleuré pour LeBron James.
Alors tu crois que Kyrie, ouais, tu le vois partir?
Bah je sais pas, mais je suis Irving, je vois que Cleveland, ils avaient plein de choix de draft et ils n'ont fait qu'un seul bon, c'était pour lui. Tous les autres c'était vraiment mauvais. Hein.
Puis franchement, là je te rejoins Nico, prendre Dion Waiters ou Tristan Thompson avec le quatrième choix, c'est moyen.
Ah bah ça s'appelle se droguer.
Ah mais c'est... non, je te jure, hein, deux années de suite, voir des choix comme ça, moi j'étais assez étonné, quoi.
Bah moi je suis Kyrie Irving, ça y est, je m'en fous de mon contrat, je pars.
Donc juste à titre informatif, à cette époque, donc LeBron James par exemple en 2004, on est quand même entouré de Ricky Davis, de Sania Diop, Ilgoskast, Capono, Boozer, voilà.
Ah, Ilgoskast, Boozer quand même.
C'est du très gros casting.
Et au classement, ils avaient fait combien?
Alors, au classement, bah, ils étaient à 33 victoires et 49 défaites. Hein. Donc 21 sur 29.
C'est plus que le bilan de Kyrie Irving en carrière pour l'instant. Non, c'est vrai, il doit pas être à plus de 30 victoires.
Ouais, et puis vous avez vu quand même que là on compare LeBron James quand même.
Oui, c'est vrai. Ouais.
non mais oui parce que en même temps Kyrie Irving voilà, on sait que tout ce que les gens attendent, les fans attendent, c'est qu'il prenne la place de LeBron James, c'est ce qu'on attendait de lui quand on a un premier choix de draft, quand LeBron James vient de quitter la ville, c'est ce qu'on attend.
D'ailleurs, je sais pas ce que vous en pensez, moi il y a une très forte probabilité de voir LeBron James revenir à Cleveland en 2014. Mais
j'ai du mal à y croire, mais on verra, mais j'ai du mal à y croire.
Mais après du coup
je veux dire si LeBron James il gagne encore un titre avec Miami et qu'il instaure quelque chose, peut-être il voudra y rester. Ou l'inverse, il sera fatigué de Miami, il dira bon, bah, je vais faire la même chose à Cleveland. Il y a tellement de choses qui peuvent se passer dans sa tête au moment où il doit prendre sa décision. Je veux dire, le voir quand il a signé à Miami, même ça, on l'a pas vraiment vu arriver. Hein. Tout le monde le voyait à Brooklyn ou à New York, voire à Chicago. Miami, c'était pas forcément la destination la plus envisageable. Pourtant, c'est celle qu'il a choisie. Du coup, c'est assez difficile de prédire comme ça.
C'est vrai. Mais bon, tout ça pour dire que voilà, Kyrie Irving, en ce moment, il fait beaucoup parler de lui.
Tout ça pour dire que le duo LeBron James Kyrie Irving, quand même, ça serait bien. Hein.
Voilà. Je pense que ça serait autre chose que. C'est sûr que ça serait autre chose que le duo Mo Williams LeBron James, effectivement.
Ah, j'espère pour Kyrie Irving. Sinon, il peut se tirer une balle.
Non, mais c'est vrai que Kyrie Irving, je vous rappelle, mais. J'avais pronostiqué sa victoire sans me la raconter, hein, vraiment entre nous. Hein, entre nous, j'avais pronostiqué la victoire sur le concours à 3 points. Juste pourquoi? Parce que je me suis rappelé que dernier All-Star Game, le Rising Challenge, c'est quand même lui qui avait fait le record en truc, 9 sur 9, je crois, à 3 points, un truc comme ça. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas cette année, pour marquer le coup, refaire un coup comme ça sur les shoots à 3 points. Et du coup, voilà. Bon, ça, c'était juste entre nous. Hein, c'était histoire de me faire mousser 2 minutes. Enfin bref, on va passer donc tout de suite le dernier challenge. C'était quoi? Le Skills Challenge remporté par Damian Lillard. Tony Parker, grosse surprise, éliminé au premier tour.
Ouais, enfin, j'ai vu sa performance.
Le tenant du titre, hein, quand même.
Il est pas arrivé à mettre le shoot à mes distances là en début de parcours. Il a loupé 5 fois. Bon, bah, il n'y a pas de surprise. Hein.
Voilà, quel dommage, Tony. Si tu nous entends, on est vraiment désolé pour toi. Mais sinon, Damien Lillard plutôt mérité, je pense. Bon, faut dire, la position était pas non plus extrême.
Et c'est pas un concours que, en général, les joueurs prennent au sérieux.
Quoi. Voilà. Mais voilà, Damien Lillard qui ajoute un trophée de plus cette année à celui de Rookie of the Year, peut-être.
Futur, oui. Bah, je vois pas qui peut l'embêter sur ce trophée.
Voilà, deux trophées dans l'année, c'est plutôt sympa pour lui, et ça marque le coup. Enfin bon, bref, on va finir là-dessus, puisqu'on ne parlera pas du Shooting Stars, hein, remporté non. par Chris Bosh et son équipe, mais bon, ça c'est jamais très très passionnant, donc on oubliera vite fait le sujet. Et puis on va passer tout de suite, et ben tout de suite aux rumeurs de trade, hein, c'est parti. Voici de retour pour attaquer les rumeurs de trade et les rumeurs bah, toujours plus insistantes. Là, à 4 jours de la deadline, on arrête le 21 février, donc on saura enfin qui est parti, qui n'est pas parti. Et dans les épisodes qu'on a envie de se voir terminer, on va parler bien sûr du cas de Josh Smith. Josh Smith, on n'en peut plus, voilà, maintenant, depuis tellement d'années. Est-ce qu'il va enfin être transféré cette année, dernière année de son contrat Les gars, dites-moi s'il va être transféré, parce que là, moi,
j'ai même plus envie de parler de Josh Smith, quoi. Je pense que soit Atlanta va l'échanger dans les 4 jours, mais c'est peu probable. Soit en fin de saison, il va se rendre compte qu'il vaut pas 100 millions et il va prolonger pour 40. Ça va se passer comme ça, je pense. Je sais pas ce que tu t'imagines, Nico, mais
je pense que Atlanta va sonder un peu tout le monde, sachant que c'est pas dit que les équipes en face voudront prendre un Josh Smith avec un contrat finissant, parce que c'est pour échanger contre des joueurs et qu'après que Josh Smith s'en va pendant l'été. Donc ça va pas être si facile que ça de le transférer, ou à moins de le transférer dans une équipe dans laquelle il veut absolument jouer et laquelle équipe voudrait bien lui offrir un bon contrat. Mais sinon, ils vont avoir du mal à trouver ce transfert. Et après, effectivement, tout se jouera pendant l'été. Sinon, je pense plutôt que tout se jouera cet été, comme disait Guillaume, je suis d'accord.
D'accord. Pourquoi pas, il y a Brandon Jennings là qui veut partir, qui apparemment c'est irrémédiable avec le staff des Bucks, il veut partir. Est-ce qu'on pourrait pas trouver un petit plan là, Jennings, Smith
Ouais. Personnellement, le backcourt Jeff Teague, Brandon Jennings, ça ne fait pas rêver du tout.
Effectivement.
Brandon Jennings. D'ailleurs, il a viré son agent parce que son ancien agent n'arrivait pas à lui faire avoir un contrat maximum. Donc, le garçon veut un contrat maximum, c'est à noter.
Ouais. C'est ça qui est fort.
Ouais. Enfin, il veut 80 millions quoi, en gros. Contrat maximum en sortie de.
Ah, il veut le même contrat que Westbrook.
Quand t'es rookie, t'as ton contrat de 4 ans, quoi. Et après, tu peux avoir 80 millions, comme James Harden a touché, par exemple. Je pense pas qu'il les vaut. Je sais pas ce que Nico en pense. Je crois pas qu'il va.
Honnêtement, contre un maximum, y a pas grand monde à NBA qui les vaut, hein.
Ouais,
à part Jeff Teague. À part Jeff Teague, bien sûr, on voit personne. C'est vrai qu'à part LeBron, à part Durant, à part Anthony, on voit pas qui les vaut. Mais bon.
Par contre, Milwaukee va faire très attention avec Brandon Jennings, parce que ils vont avoir la capacité de l'échanger, mais aussi de matcher tous les contrats qui aura cet été, qu'on lui offrira. Donc, ils ont une grande chance de garder Jennings, même contre sa volonté.
Oui, mais est-ce que ce serait une bonne idée pour les Bucks de garder Jennings pour finalement avoir un joueur pas épanoui en
fait. Non, pas du tout. Mais une fois signé, ils pourront s'en servir comme monnaie d'échange, et là avec plus de contrepartie, parce que là par exemple on prend l'exemple de Josh Smith. S'il balance Jennings contre Josh Smith, bon bah Josh Smith, je suis pas sûr qu'il soit fan de Milwaukee qui va rester là.
Ouais, c'est une belle ville.
Le Wisconsin, oui, c'est magnifique.
Je suis Milwaukee, je préfère garder Jennings et jouer la carte encore de je peux faire croire de le matcher, que je peux le matcher, ou même pour l'équipe à qui ils vont échanger Jennings, parce que s'ils échangent Jennings maintenant, l'équipe d'en face pourra envoyer du gros, parce qu'ils se diront j'aurai une grande chance de le garder Jennings avec cette capacité de matcher les offres. Du coup, c'est quand même une plus grosse contrepartie que Josh Smith dans les faits, je pense.
Ouais, pour revenir sur la vision plutôt de Brandon Jennings, là t'as fait Milwaukee. Pour revenir sur Brandon Jennings, je suis pas convaincu que lui veuille rester à Milwaukee. Déjà c'est un petit marché. En plus ils veulent pas lui donner l'argent qu'il veut. Mais après je me dis où est-ce qu'il pourrait s'épanouir. Je vois pas forcément beaucoup d'équipes prêtes à l'accueillir.
C'est vrai ce que tu dis. Après je pense aussi que Jennings n'est pas si fermé face à l'idée de rester à Milwaukee. Mais je pense quand même qu'il veut un peu tester toutes les
possibilités. Dernièrement, selon les dernières infos qu'on a eues, il est apparemment vraiment en froid avec Milwaukee. Hein.
Oui, mais ça c'est des bruits, et puis ça durera peut-être pas. Non, je pense vraiment que qu'on verra cet été que Jennings va tester un peu toutes ses possibilités. Il va voir les offres qu'il va recevoir, parce que s'il reçoit que des offres de montant classique, j'ai envie de dire, bien loin de ce qu'il demande, il dira peut-être que bon, bah, de toute façon, j'aurai pas mon argent. Et à partir de là, il verra ce qu'il fera. Et pourquoi pas rester à Milwaukee où il est quand même bien installé, mine de rien.
Après, quelles autres équipes vous voyez là? Bah tiens Antoine, il y a eu la piste Dallas, non?
Bah oui, Dallas. Donc effectivement, on a eu Dallas pour Brandon Jennings. Bon, effectivement, moi je vois pas vraiment les contreparties que peuvent récupérer Milwaukee par rapport à Jennings, mais bon, pourquoi pas Dallas. Après moi, effectivement, peut-être comme Nico, je pense que Jennings va pouvoir tester un peu plus cet été, en se disant qu'il a pas mal d'opportunités qui s'offrent à lui et que peut-être sans se précipiter, on peut trouver un accord plutôt arrangeant.
Après, il y a moi quand on parle de Brandon Jennings, ça me fait tout de suite penser à Tyreek Evans, parce que les deux sont dans la même situation.
Alors Tyreek Evans, c'est ce que justement vous pensez pas hein, quand même un trade de Jennings Evans quand même.
Bah je j'y ai pensé.
Non, parce que Sacramento au niveau arrière, je pense qu'on est fourni là.
Ah
oui, mais mine de rien, un Jennings, ça leur ferait quand même un joueur qui peut faire des passes. Parce que même si Jennings aime bien tirer, à mes yeux, ça reste un vrai meneur qui peut vraiment installer un jeu et distribuer la balle. Je veux dire, si des joueurs comme Larry Sanders se mettent 10 points par match, c'est pas parce qu'ils sont bons. Hein. Et du coup, presque, je serais tenté de me dire que à Sacramento aurait un intérêt à avoir un joueur comme Jennings. Même s'il y a du déchet, mais de toute façon, ils sont pas certains. De toute façon, ils ont même pas l'ombre d'un meneur dans leur équipe. Donc un Jennings serait bien. Par contre, je vois absolument pas pourquoi Milwaukee prendrait Tyreek Evans,
oui,
sachant
qu'il
est déjà Monta Ellis.
Monta Ellis, le mec aura jamais l'espace disponible qu'il lui faut. Lui. C'est toutes les équipes qu'il va faire.
Est-ce que c'est un joueur qui te fait vraiment gagner, quoi? Parce que pas un meneur. Et niveau passe, bon, il est pas mal, c'est un bon passeur quand même. Mais il peut pas jouer meneur sur 40 minutes, il est trop petit.
Faut pas, c'est dangereux. Hein.
Comment?
Il faut pas le faire jouer meneur, Monta.
Ah ben non, il faut pas. Non, c'est pour ça, moi, je
pense que c'est un risque de finir en Westbrookerie, tout ça.
Ouais, et encore.
Ouais. Même pire, je pense pire que Westbrook, tu vois.
Non, mais voilà. Moi, il y a le cas aussi, Tyreek Evans qui me fait réfléchir, je sais pas. Pareil, je sais pas où est-ce qu'il pourrait se relancer, Tyreek.
Et je pense que Tyreek Evans, il va nous faire une OG Mayo. C'est-à-dire que cet été, ou l'été prochain, il va signer pour pas tant d'argent, un peu en catimini, ou trouver un club, peut-être, qui le voudra vraiment. Et
mais
puis,
qui ça?
Je sais pas ça. Je t'ai dit ou cet été ou l'année prochaine, donc ça peut être large comme possibilité.
Et on se calme, il est pas encore agent, Nico.
Non, mais cet été, il peut partir en fin de contrat cet été, hein, juste Sacramento peut matcher.
Ouais.
Du coup, et puis moi je pense qu'il va renaître un peu de. En plus déjà là, il joue pas si mal que ça. Hein, je sais pas.
Il joue très bien. Ouais, je regarde parfois Sacramento. Enfin moi je l'aime bien.
Il a l'air d'être bien dans l'ombre un peu, dans l'ombre des bêtises de DeMarcus Cousins. Il a l'air pas si mal que ça, quoi.
Ouais.
Plus de lui, il joue pas mal. Et un peu comme O.J. Mayo d'ailleurs. Et je pense qu'il va un peu suivre la même trajectoire en allant ailleurs ou en signant pour un petit contrat, enfin en abandonnant son étiquette de futur franchise player ou je sais pas quoi. Et là, pour lui, tout va aller un peu mieux, je pense.
D'accord. Ok. Bon. Ensuite, on va passer tout de suite au trade là qui s'annonce vraiment bouillant les prochains jours. Bargnani, bouillant. J'ai envie de dire oui et non parce que bouillant parce que Toronto a vraiment envie de s'en séparer. Et bouillant, refroidi, parce que surtout
personne veut le prendre,
et aussi le gars a encore quand même 3 ans de contrat.
C'est fou ça.
Donc qu'est-ce qu'on va en faire de Bargnani là?
Est-ce que Toronto il leur reste une amnesty clause?
Ah, très bonne question.
Ça s'en servit ou pas?
Très très bonne question.
Parce que je pense qu'ils vont essayer de le transférer toute cette année et peut-être même l'année prochaine, parce que tant qu'à faire, si on peut récupérer quelque chose en retour, on peut. Mais là, tout le monde est en train de se dire que bon, bah, Bargnani dans tous les cas ne vaut pas ces 10 millions sur 3 ans. Et du coup, je me demande si la solution sera pas ça.
Ça peut être une solution.
Après, je sais pas, puisque t'as quand même une équipe comme Charlotte qui désespérément en recherche de scoreurs, quoi, de gens qui peuvent mettre des points. On sait qu'il y a eu une rumeur là avec Ben Gordon, pourquoi pas.
Bon, changer Ben Gordon contre Bargnani, tu perds un scoreur contre un autre scoreur qui a un peu les mêmes.
Ouais, mais je sais pas. Je trouve que Ben Gordon n'est pas très bien utilisé à Charlotte. Et dans le même temps, je sais que t'as le trade exactement, Antoine, ou pas, concernant Ben Gordon.
Ben Gordon et Bargnani.
Ouais.
Bah écoute, si tu as 5 minutes pour meubler, je peux te trouver ça. non, mais
allez, vas-y, champion. Vas-y, Guillaume, vas-y.
Non.
Non, mais effectivement, non, mais ça serait Ben Gordon, contre Bargnani, on imagine qu'il y aurait peut-être
tour de draft, un truc comme ça.
Un joueur à côté, un tour de draft, bon voilà, et c'est...
Après, la piste plus sérieuse, ça serait peut-être Carlos Boozer, je sais pas si vous avez entendu celle-là aussi.
Oui, il y a celle-là, il y a
qui
Carlos Boozer.
Qui enverrait également Terence Ross à Chicago, il me semble, ou peut-être Johnny.
Mais quel intérêt pour les Bulls de...
L'intérêt, il est juste financier. Ils l'ont, clairement, c'est un intérêt financier.
Donc, ils mettent fin à leurs ambitions de cette année, et point final, quoi.
Bah, c'est-à-dire que cette année, Nico, à mon avis, tu vas pas me contredire, cette année, les ambitions sont assez mitigées, puisque il y a quand même le retour de Derrick Rose, qui, on sait pas s'il va revenir cette année. Je pense que cette année, elle est à mettre à la poubelle. Donc,
On peut voir ça comme ça, c'est vrai que cette année est un peu juste, donc à la rigueur, pourquoi ne pas la sacrifier? Le truc, c'est que si on prend Bargnani contre Boozer, Bargnani, on l'a sur les jambes pendant encore deux grosses années, sur le coltiné, quoi. Donc, je sais pas si, autant pour cette année, tu peux faire ce que tu veux, si c'est pour le payer dans les deux ans qui suivent, alors que Derrick Rose est revenu, là, par contre, je suis un peu moins chaud si je suis Chicago.
Ouais, c'est vrai. C'est vraiment une patate chaude, Bargnani, en ce moment.
Je pense que, on n'a pas fini d'en entendre sur lui parce que il va être vraiment très 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 dur à trader, je pense. Hein. Ça va être.
Et puis là, clairement, avec l'arrivée de Rudy Gay, définitivement, c'est plus le franchise player, quoi. Donc ça va commencer à... les choses vont aller de moins en moins bien.
Et puis Gay a parlé pour lui avec déjà deux shoots de la victoire, quand même. Hein.
Oui, aussi.
Donc je pense que Bargnani, on a vraiment fait une croix dessus. Hein.
Oui, les choses.
Est-ce que finalement, le fait qu'il y ait Rudy Gay qui veuille bien prendre le rôle de franchise player, ça va pas arranger Bargnani, le libérer un petit peu, au moins il prendra ses petits shoots tout seul et puis il sera content avec ça et ça suffira pour tout le monde.
Peut-être, mais en même temps, on se dit que peut-être ça va peut-être pas durer longtemps dans ce format-là puisque le joueur pourra sûrement être tradé dans les 4 jours à venir. Donc
pour te répondre, Nico, moi je dis peut-être. Mais un intérieur qui prend aussi peu de rebonds, moi ça correspond pas à mon équipe si je construis une équipe. Quoi. Donc peut-être qu'il mettra ses paniers, mais voilà.
Oui, mais là il y a qui en intérieur derrière parce que sans Ed Davis qui prenait sa part de rebonds, ça commence à être un peu vide. Hein.
Ouais.
Excuse-moi, il y a Jonas Valanciunas.
Exactement.
Ouais, il est encore un peu tendre, je trouve.
Il est encore un peu tendre, mais ça peut être une solution. Hein. On sait que le joueur épanoui a de l'avenir.
Il y a beaucoup d'avenir. Après, est-ce que...
C'est une belle phrase, ça, Antoine.
Un joueur épanoui a de l'avenir. C'est pour l'anniversaire de Michael Jordan.
Vous l'avez entendu sur l'écho des parquets.
Donc, effectivement, je pense que en intérieur, sur Toronto, c'est vrai que c'est un peu... C'est pour ça qu'ils ont tout intérêt à l'échanger contre un intérieur, s'ils veulent l'échanger, que contre un Ben Gordon.
C'est clair.
Oui,
c'est clair.
Ou s'il pouvait éventuellement récupérer Ed Davis, ce serait pas mal pour vous.
Reprendre Ed Davis. Bah, ils ont déjà négocié avec Détroit, ils pourraient peut-être essayer de ramener Greg Monroe par là.
Ah bah oui, Barney contre Greg Monroe, c'est tout.
Franchement, moi je prends.
Monroe, c'est juste le plus gros espoir de Détroit en ce moment, mais oui, bien sûr.
Oui. Oh, il n'y a pas que lui. Hein.
Si Greg Monroe il s'en va, les fans, ils pleurent.
Ils ont Rossi Calderon.
Ouais, ils ont toujours Eminem, mais bon, ils jouent pas au basket.
Non, c'est dommage. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'on a en
Paul
trade
Millsap aussi.
Paul Millsap, oui. Alors, tu m'as annoncé tout à l'heure à Brooklyn ou aux Clippers.
Brooklyn, c'était il y a quelques jours déjà. Apparemment, la situation un peu plus avancée.
Je pense pas Brooklyn. Ça va être Brooklyn, ça va être très tendu.
Je pense pas non plus parce qu'il y a déjà André Blatch un peu dans le même registre d'intérieur.
Jusqu'à la deadline, ça ne changera pas.
Ouais, pareil. Et donc l'autre rumeur, c'était Eric Bledsoe contre Paul Millsap.
Alors là, justement, gros dossier, les Clippers là sont vraiment actifs en ce moment. Hein. On entend parler de Garnett, on entend parler de Millsap, ils veulent se séparer d'un coup de Jordan, d'un coup de Butler, d'un coup de Bledsoe, les deux.
Ups, parfois même.
Voilà. Alors qu'est-ce qu'on va faire des Clippers là? Ils ont vraiment envie de jouer le titre de cette année, je pense. Hein, c'est ça, hein.
Ah bah, s'ils le visent pas là, je sais pas ce qu'ils font, hein.
On a l'impression qu'ils le veulent, voilà, c'est Chris Paul est là, faut y aller, quoi.
Ah oui, c'est le moment jamais, oui. Je sais pas si les rumeurs viennent vraiment des dirigeants, enfin de la franchise elle-même, ou c'est juste la sauce Los Angeles qui commence à prendre et tout le monde qui parle d'eux, alors qu'eux n'ont pas esquissé le moindre mouvement.
Un peu ce que connaissent les Lakers depuis des années maintenant.
Exactement, oui. Donc ça doit leur faire tout drôle, ça c'est sûr, hein, mais...
Ah ben oui.
Donc je sais pas, parce que moi personnellement Millsap, je sais pas ce qu'ils veulent en faire. Hein. Je préfère garder Bledsoe qui en sortie de banc peut apporter de l'énergie et des trucs. Millsap, j'ai l'impression qu'il va plus se gêner avec Blake Griffin qu'autre chose, quoi.
Millsap, il se gêne avec tout le monde, hein, j'ai l'impression. Non mais c'est vrai, à Utah.
Oui, c'est vrai.
Il y a embouteillage, parce que...
Avoir un Bledsoe en cas de coup dur, avoir un Bledsoe en sortie de banc, ça peut être quand même assez vraiment intéressant.
Mais surtout que Bledsoe, il fait une saison fantastique, hein, pour le moment. C'est un des meilleurs backups sur le poste de meneur de la Ligue. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je vois pas mieux. Hein.
Tant qu'il reste remplaçant, moi, ça me va.
Ouais, et puis...
Ah, c'est le remplaçant idéal, mais par contre, c'est pas un titulaire indiscutable.
Ouais. D'accord, c'est un très bon remplaçant, mais il a quand même montré que Chris Paul est pas là.
Il y a plus discutable dans la ligue que lui en tant que titulaire, mais au Clippers, c'est pas le titulaire.
Non, ce que je voulais dire, c'est qu'il a quand même réussi de très bons matchs en tant que titulaire quand Chris Paul était blessé.
Bien sûr.
Voilà. Donc pour moi, c'est un joueur, c'est une très grande valeur pour les Clippers, ils devraient peut-être pas l'échanger, à mon avis.
Bon, et Utah, qu'est-ce qu'a gagné Utah dans l'histoire, parce que Utah,
ce qu'ils ont gagné, c'est pas forcément un joueur en retour. C'est une place de libre à l'intérieur.
Parce que eux, ce qu'il leur faut là maintenant, c'est un leader. On a un collectif qui tourne bien et il leur faut vraiment un leader là.
Oui, mais c'est pas contre Millsap qu'ils trouveront leur leader. Hein.
Ah, c'est ça le truc. Parce que si tu prends un Jordan, un Butler ou un Bledsoe, ça va pas te faire monter ton équipe.
Moi, ce que je pense, c'est que ils essayent de trader donc Millsap ou peut-être on avait entendu aussi Al Jefferson à San Antonio pour libérer une place dans la raquette à Derek Favors ou Enes Kanter. Je pense que la contrepartie, elle sera là.
Ça et aussi éviter de perdre ces deux joueurs, enfin l'un ou l'autre joueur, sans rien recevoir en retour.
Exactement.
Cet été, parce que les deux sont en fin de contrat. Du coup, s'ils veulent profiter de leur valeur, parce que c'est quand même des joueurs qui ont une vraie valeur, hein, s'ils veulent profiter de leur valeur, c'est maintenant qu'il faut les échanger contre le mieux qu'ils pourront trouver, quoi. Sinon, ils vont perdre du talent, hein, rien du tout, si ce n'est un peu d'argent, mais comme personne ne veut venir dans le temps.
Ça, c'est quelque chose à ne pas négliger, c'est ne pas perdre en recevant aucune contrepartie.
Ouais.
Et pour finir, on va peut-être parler de les Celtics. Tiens, les Celtics, on annonçait un trade quelque chose, et finalement,
je pense que, on n'est jamais à l'abri avec Danny Ainge, ça on l'a appris ces dernières années, mais le discours, on l'a entendu parler quelques fois là, Danny Ainge dernièrement.
Allons chercher des joueurs là où il y a des bons joueurs.
Oui, c'est ça. Si on a une bonne offre, on va la prendre, mais on va pas monter tout un échange pour avoir le bon joueur qu'il nous faut. Quoi. Je pense que ça va pas bouger à Boston, à mon avis.
Ok, donc je vais pas revenir sur le trade Rondo Howard, hein, bien sûr, qui n'aura duré que quelques minutes. Le taux de crédibilité. Donc voilà. Non, mais Daniel, oui, avec Rivers, on parlait du fait qu'il y avait des talents bien ailleurs qu'en NBA, que la saison chinoise allait se terminer, que s'ils recherchaient un arrière. Beaucoup de joueurs comme
Stéphane Marbury.
On va peut-être pas exagérer, mais beaucoup de joueurs allaient revenir par ici, chercher des clubs à droite à gauche, et donc peut-être pourquoi pas trouver l'arrière qui leur manque à la place de Barbosa ici.
C'est vrai.
Voilà. Bon bah je pense qu'on va conclure là-dessus.
Ouais.
Avant de terminer, je voudrais juste qu'on parle de Royce White. On va en parler tout de suite. Hein. Je voudrais juste qu'on parle de Royce White puisqu'on vous en a parlé la semaine dernière. Donc cette semaine pour vous, et rien que pour vous, je me suis fait un match de D-League. Voilà.
C'était dur.
Voilà.
Exactement. Notez qu'Antoine apprécie beaucoup Ray White. Il va jusqu'à regarder la ligue.
Un peu trop peut-être, je dirais.
Ouais, c'était un joueur auquel
je voulais parler puisqu'on en a parlé la semaine dernière. Donc pour vous donner de ses nouvelles, il a joué avec les Rio Grande Valley Vipers.
Les Vipers.
Donc cette semaine, il a fait deux matchs cette semaine. Un contre les Texas Legends et l'autre, je ne peux plus vous dire, je crois que c'est les Reds de Maine Claws.
T'as vraiment regardé alors?
Ouais. La filière affiliée à Boston. Le premier match, pas mal. Le deuxième match, un peu plus en dedans au niveau des shoots. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que Nico, la semaine dernière, tu nous as parlé de lui comme étant un joueur polyvalent et il forçait de constater que tu avais raison.
Ouais.
C'est un joueur très polyvalent. En témoigne sa ligne de statistiques à 6,5 points, 7 rebonds et 4 passes. Donc là, on a vraiment un Boris Diaw en herbe, effectivement. Et je pense que ce joueur va quand même réussir à se faire une place un jour ou l'autre au sein de son équipe.
Ouais.
Voilà.
Ah, les paris sont pris alors.
Voilà. Donc puisqu'on
est dans les infos inutiles, on peut souhaiter aussi un bon anniversaire à Michael Jordan.
Oui, pendant qu'on est dans l'info inutile, alors pour la 4500e fois aujourd'hui, un bon anniversaire à Is Ernest, que Guillaume apprécie particulièrement. Vous pouvez retrouver d'ailleurs son vintage analyse sur Michael Jordan sur le site basket-info.com. Et puis, quant à nous, on va se retrouver la semaine prochaine.
Ben ouais.
La semaine prochaine, peut-être avec une surprise. On sait pas encore si c'est pour la semaine prochaine.
On verra si ça se fait.
Mais peut-être une surprise de grosse envergure.
On avait parlé de distribuer des cookies, mais par la radio, c'est dur.
ça va être compliqué. compliqué. Peut-être non, on va pas en parler, on verra ça la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite tous une c'est ça, je vous souhaite tous une bonne semaine. Les gars, je vous remercie d'avoir été là. On remercie Laurie qui elle doit être devant son match, et puis on vous voilà, bonne semaine basket, bonne semaine à tous.
Ciao ciao.